Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes les bienvenus, voici l'émission du samedi sur Europe 1 qui vous permet de voyager hors des sentiers battus, là où probablement vous n'auriez peut-être pas imaginé de vous rendre. Alors tout d'abord, nous vous emmènerons à bord d'un sous-marin à Saint-Nazaire. À l'époque, il naviguait sous la banquise et on vous dira pourquoi il allait là-bas. Ensuite, direction d'un château en Isère pour comprendre pourquoi les fils aînés des rois de France s'appelaient des dauphins. Ensuite, on tourne à gauche en sortant et on remonte dans les Vosges, à Épinal, pour découvrir ce que l'on appelle, mais ce qu'on appelle vraiment l'imagerie d'Épinal. Le mot, c'est une image d'Épinal, ça peut être un nom commun, une formule, ouais. Une expression. En réalité, c'est une réalité. Enfin, pour une expérience en plein air, comme à chaque fois, nous avons choisi un site où l'on peut pratiquer en toute sécurité, en toute saison, du canyoning. Ça se passe en Haute-Savoie. Alors quoi ? C'est beau. C'est original et puis c'est sympa à faire. On n'est pas obligé d'être un champion olympique. Mais pour commencer avec celui qui nous accompagne chaque samedi, l'ambassadeur du guide du routard de passage en Europe, Gavin Clément-Terruiz, on embarque, excellence, à bord de l'Espadon. Alors, l'Espadon, c'est le même nom que le poisson qui a un très long bec, mais c'est pas un hasard s'il s'appelle comme ça, Gavin.
Non, ce n'est pas un hasard. Bonjour William, bonjour à tous.
Hello.
Il s'agit d'un sous-marin qui n'est plus en activité, l'Espadon, mais qui a été rénové à l'identique. Et il est toujours à flot, c'est ça qui est original. Mm-hmm. Et bien sûr, on y va parce qu'on peut le visiter. Alors, juste un mot sur Saint-Nazaire. C'est dans le département de la Loire-Atlantique. On est à 1 heure de route à l'ouest de Nantes et à 20 km au sud-est de Guérande, exactement.
Mais de quand il date, ce sous-marin ?
Eh bien, il a été construit après la Seconde Guerre mondiale. Il a été en mission entre 1960 et 1985.
Oui.
C'est ce qui lui a permis de parcourir, imaginez, l'équivalent de 17 fois le tour de la Terre.
Pas toujours avec le même équipage.
Je crois pas, hein, quand même pas.
Non, non.
Mais sa particularité, c'est que c'est le premier sous-marin à naviguer sous la banquise. Mm-hmm. C'est ce qu'on va découvrir et pourquoi. C'est justement sur ce point que les conservateurs de l'Espadon, aujourd'hui, ont souhaité insister grâce à un tout nouveau parcours de visite qui a ouvert...
C'est pour ça qu'on va là-bas. Hein.
Exactement, l'été dernier. Ça s'appelle « Mission sous la banquise ». On replonge le visiteur dans les missions de dissuasion du sous-marin lorsqu'il était en fonctionnement pendant la guerre froide.
Mission de dissuasion. Tiens, ça mérite des explications, tout ça. Bon, alors, nous sommes justement en ligne avec Tiphaine Yvon, qui est responsable Pôle Patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. Pas mal, hein, sur la carte de visite.
Tout ça.
Ah, tout ça, oui, ça fait plusieurs lignes. Bonjour Tiphaine.
Bonjour.
Alors, vous avez fait pas mal de travaux, hein, sur et dans le sous-marin. Il était nécessaire de le restaurer, vraiment ?
Il était absolument nécessaire de le restaurer. Il a une carrière militaire de 25 ans et depuis qu'il est un objet de musée, puisqu'il fait partie des collections de l'écomusée de Saint-Nazaire, il a une carrière d'objet de musée qui est plus longue que sa carrière militaire.
Ah bon ?
Donc, évidemment,
ça fait plus de 30 ans, quoi ?
Eh bien, on est à 34 ans d'objets de musée.
Et ça fait beaucoup de gens qui l'ont visité, je suppose.
Ça fait énormément de visiteurs. Mmh. Nous accueillons entre 80 et 90 000 visiteurs par an, ce qui fait qu'au bout de 33 ans, quasiment 3 millions de visiteurs.
Oui, ça méritait un coup de pinceau, si j'ose dire. Il fallait restaurer. Mais attendez, il faut restaurer l'ensemble, du coup, extérieur et intérieur ?
Et oui, il faut restaurer d'une part la coque externe, qui est une coque assez mince et qui était fragilisée par l'air salin, l'air humide, ambiant. Mmh. Et puis l'intérieur, qui connaissait des problématiques de corrosion dues à de l'encrassement et puis dues aussi à l'humidité. Et puis évidemment, au fil du temps, il y a des choses qui se un peu dégradées. Et donc, c'est une grosse campagne qui a été menée.
Très bien. Alors là, il est comme tout neuf, presque. Gavin parlait de mission de dissuasion. C'était quoi son usage à ce sous-marin ? À l'époque, il ne fallait pas le dire, mais aujourd'hui on peut. Hein. Il n'avait pas exactement les mêmes missions que les autres, non ?
Alors, le sous-marin est quand même beaucoup de sous-marins de cette période qui correspond à la guerre froide, hein, oui. Au moment où les grandes puissances se regardent de travers mais ne s'agressent pas physiquement, oui. On va dire.
Oui.
Eh bien, c'est un outil de dissuasion et donc il est là pour mener des missions de renseignement militaire, d'observation, en toute discrétion évidemment sous l'eau.
Oui.
Et puis, il participe aussi à la formation des sous-mariniers.
D'accord. Combien y avait-il d'hommes ou de femmes à bord et combien de temps restait-il sous l'eau ?
Alors, l'équipage du sous-marin, c'était 65 hommes, pas de femmes. Beaucoup de promiscuité, des conditions d'hygiène un peu compliquées. Et puis, ce n'était pas l'esprit dans les années 60 de la Marine nationale. Et donc, en fait, ce sont 65 hommes, alors plus ou moins un ou deux, qui embarquent et qui vont partir pour 45 jours de mission, parfois un peu moins. Mais,
sans escale, puis quand on est dessous, on est dessous. Hein.
Sans escale, par contre, on remonte à la surface, puisque le sous-marin a une autonomie de plongée au maximum de 5 jours. Il faut aller chercher l'air en moyenne tous les 2-3 jours. Là, c'est sécure. Et puis, si vraiment on est dans une zone un peu compliquée, où il faut être très discret, on va rester en plongée pendant 5 jours.
Et est-ce que les sous-mariniers sont tous des volontaires ?
Alors oui, les sous-mariniers ont une formation qui va durer plus ou moins longtemps. Et puis, vous le comprenez assez aisément, il faut quand même quelques aptitudes personnelles.
Oui, oui,
je pense que le sous-marinier a un équipement mental qui n'est peut-être pas tout à fait comme le nôtre, en tout cas comme le mien, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas être claustrophobe, il faut être capable de vivre dans une extrême promiscuité pendant un certain temps.
Oui.
Et puis, évidemment, il faut être en capacité d'être dans un esprit de camaraderie, de solidarité
bien
tout
sûr,
le temps.
Bien sûr.
Voilà.
Et puis on se déplace dans des coursives qui sont extrêmement étroites. On partage des banettes, hein, des mêmes lits, hein, souvent. Je ne sais pas si c'était comme ça déjà à l'époque. Oui, probablement.
Alors oui, dans le sous-marin qui fait partie de la classe des narvals, bien sûr, c'est le même système. 65 hommes d'équipage, 53 couchettes. Le commandant a sa couchette propre et après, les autres partagent les couchettes. En fait, on a 2 couchettes pour 3 hommes.
On respire à bord, là. Vous dites, on fait le plein d'air de temps en temps. On monte en surface, on respire un air qui est à peu près le même que le nôtre. Et, oui, et on vit à quelle température en moyenne dans un sous-marin ?
Alors, ça dépend des espaces. Quand on est dans les machines, il peut faire jusqu'à 45 degrés. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs que les sous-mariniers l'appellent l'enfer. Dans les torpilles, il va faire un peu plus froid et c'est surtout très humide. Il y a beaucoup de condensation. Après, les sous-mariniers n'expriment pas avoir souffert particulièrement des conditions de température, même si, évidemment, quand on est en machine, c'est très difficile.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait des progrès sur la façon de vivre à bord d'un sous-marin ? De toute façon, ils sont plus grands, peut-être plus confortables, si j'ose dire, je mets des guillemets à confortables.
Oui, oui, beaucoup plus confortable. Les sous-marins, aujourd'hui, les sous-marins nucléaires sont beaucoup plus grands. L'espadon fait 77 mètres de long. Un sous-marin nucléaire, c'est beaucoup plus que ça. Et ils sont beaucoup plus confortables avec des espaces dédiés. Alors, ça reste un espace confiné et étroit, mais ça n'a rien à voir.
Oui, on peut se retrouver autour d'une table pour manger ensemble, peut-être. Aujourd'hui avec les grands sous-marins.
Oui. Bien sûr. Okay. Alors c'était déjà le cas dans l'espadon, si ce n'est que les tables étaient pliantes et qu'une fois qu'on avait plié les tables, on dépliait les bannettes.
Ah oui, c'est ça, d'accord. Quand on visite le navire, on fait ça avec un audio guide. Et qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce qu'il y a une façon d'être en immersion comme si on était vraiment dans le sous-marin et qu'il est sous l'eau ?
Oui. Alors, on a travaillé à l'extérieur pour offrir plusieurs points de vue. Hein. On va aller à la proue du sous-marin, on va descendre au ras de l'eau et donc là, du coup, on a une autre vision.
Ah oui.
On est accompagné par le son du sonar à l'extérieur et puis par une lumière qui nous permet de le voir, parfois de manière un petit peu intrigante. Mmh. Et puis, à l'intérieur, on a des sons qui sont des sons d'ambiance et un récit qui est celui de Marc, qui est un reporter qui a réellement existé, un de vos confrères, qui, après avoir fait son service militaire à Terre et Mer, qui était un magazine de l'armée, a fait une carrière à Paris Match. Et donc, Marc raconte cette mission sous la banquise en 1964, qui est une grande première française.
C'est bien ça. Et ça me fait penser à tous ces films sous les sous-marins, Octobre Rouge ou Das Boot aussi, ce film.
En ce moment, il y a une série sur Arte, Vigile, je vous conseille, c'est excellent.
Ah ouais.
Ça se passe dans un sous-marin, mais en Écosse, mais vraiment l'ambiance y est.
D'accord. Bon, merci beaucoup, Tiffaine Yvon, pour cette description. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Alors, quand on veut visiter, comment ça se passe, Gavin ?
Et on s'adresse à qui ? On va à l'office de tourisme de Saint-Nazaire, tout simplement, ou alors on peut aussi réserver en ligne, bien entendu. Je mets toutes les informations sur europe1.fr, pas de souci. Ça dure 40 minutes pour la visite audio-guidée, comme nous l'a dit Tiffaine. Mm-hmm. Ça coûte 11 euros pour un adulte et 5,50 pour un enfant de 4 à 17 ans. Ça réouvre le 5 février prochain jusqu'en novembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h et de 10h à 20h durant la haute saison. À vous, la salle des machines, la table des cartes,
le logement des officiers. On descend parce que tout le décor autour du sous-marin qui est dans l'eau,
c'est ça qui est chouette.
Ça, c'est très impressionnant.
Et on a l'impression d'y être et de se prendre vraiment pour un sous-marinier.
Dites-moi, en plus, là, il y a d'autres choses à voir dans l'estuaire de Saint-Nazaire, non ?
Oui, c'est très très riche. Il y a l'écomusée, bien sûr, dont dépend l'Espadon. Il y a les chantiers de l'Atlantique. C'est là qu'on fabrique les immenses paquebots que l'on voit ensuite partir au loin. Il y a l'escale atlantique aussi. Alors là, c'est pas mal pour les enfants. Hein. Ça va être les vacances. Profitez-en. C'est un voyage interactif qui plonge dans l'histoire de tous ces grands géants des mers, comme on les appelle, les paquebots, ça plaît aux petits comme aux grands, et puis pas de risque d'avoir le mal de mer, là, parce qu'on est à quai dans ces cas-là, tout se fait sur terre.
D'accord, une adresse pour manger à Saint-Nazaire, si on reste la journée ?
On est à l'ouest, alors on va aller goûter une petite crêperie, une petite crêpe à l'invitation, ça s'appelle comme ça, la crêperie, rien que le nom déjà, c'est une invitation à être gourmand. C'est dans le quartier du Port, une adresse toute simple, avec des prix tout démocratiques, comme on dit, j'aime bien cette expression. Et ils font des fish and chips aussi, comme en Angleterre. Vous savez, le poisson bien gras, avec les fruits bien gras.
Parfait,
qu'on mange avec les doigts.
Très digeste, formidable.
C'est bon.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dans la catégorie site du patrimoine, voici une plongée au cœur de l'histoire de France, une histoire un peu oubliée des manuels scolaires. Gavin Clément-Lerouis du Guide du Routard reprend sa baguette de prof d'histoire. Je ne sais pas si vous en aviez une à l'époque. Oui,
on va dire
peut-être.
Que oui.
Ah, vous avez été prof ?
Non. Alors, j'aurais bien aimé.
Oui, je m'en doute. Où allons-nous et pour y voir quoi ?
Alors, mon cher élève William Lémergie, nous allons aller en Isère. L'Isère, William,
oui.
50 km de Grenoble, précisément à juste en face de Saint-Marcellin, dans un petit village d'une centaine d'habitants qui s'appelle Beauvoir-en-Royans.
Quel est le rapport entre le délicieux fromage et l'histoire, là ?
Aucun. Sur le papier, aucun.
Ah oui, d'accord.
C'est juste que vous allez pouvoir aller
faire...
C'est
juste que vous avez fait, vous, quand vous y avez été, une petite halte.
C'est juste en face de l'autre côté de la rivière. On va pouvoir aller faire ses courses avec acheter les bons fromages locaux. Mais moi, je vous propose d'aller de l'autre côté de la rivière et d'aller visiter ce décor avec ce cadre qui est magnifique. On est sur les contreforts du Vercors. Mmh. C'est un lieu, mais vraiment magique. Là, en plus, en ce moment, c'est un peu enneigé au sommet. C'est vraiment très, très beau. C'est là que se situent les vestiges de la résidence des seigneurs du Dauphiné. On les voit comme ça, sur la terre plane, avec l'herbe, la neige bientôt, et ils vécurent là, au XIVe siècle.
Alors, c'est important de dire les vestiges. Je vais vous dire pourquoi on ne dit pas les ruines. Parce que moi, j'ai vu les photos que vous m'avez apportées. Ce sont des vestiges. Ça ne veut pas dire la même chose. Dans quel état était cette résidence, justement ?
C'est des vestiges. Donc, c'est des bouts, des morceaux de cette résidence. C'est ce qui rend l'endroit vraiment très mystérieux. Il y a le pan d'une façade, d'une tour qui est là. Et on arrive là à Beauvoir-sur-Royans et on voit cette tour carrée. Et juste à côté, il y a le fameux couvent des Carmes. C'est lui qu'on vient voir parce que c'est lui qui est en meilleur état.
Et c'est ce mélange des genres. Il y a cette architecture où ça, c'est parfaitement bien.
C'est vraiment très beau. Il y a l'architecture et puis il y a le cadre du Vercors juste derrière. C'est
et
magnifique.
Et tout autour, c'est vestiges.
C'est vraiment très beau.
C'est assez mystérieux, finalement, quand on voit ça. Alors, ce mélange est resté dans son jus, puisque la partie couvent s'est restaurée. C'est impeccable, ça.
Ça, c'est restauré. Et on vient le visiter, tout simplement. Pourquoi on vient le visiter ? Parce que c'est un monument. On ne le sait pas assez. C'est très important pour notre histoire de France. Parce que qui dominait là ? C'était Humbert II.
Qui est Humbert II ?
C'était le seigneur local qui dirigeait le Dauphiné, en quelque sorte. Je résume très brièvement. Et il a vendu le Dauphiné au roi de France.
C'est incroyable, ça. On vendait des territoires.
Et il a demandé, en donnant cette partie-là de son territoire au roi de France, qu'en hommage à sa région, les fils aînés des rois de France portent le nom de Dauphin.
Ah voilà.
Ça vient
Dauphin,
de là.
Dauphin,
le Dauphiné. Dauphin du roi de France. C'est un hommage à cette terre qui a été léguée par Humbert II à l'époque.
D'accord. Oui, ben il y a ça, mais pas seulement, parce qu'on découvre du coup la vie de cette noblesse du Dauphiné. Alors, on peut la comparer à d'autres régions de France, mais ça va être intéressant parce qu'on sait beaucoup de choses. Et le lieu a su se réinventer. Ça mérite qu'on aille faire un petit tour sur place à notre manière à nous, c'est-à-dire que nous sommes en ligne avec Lydie Baluto, qui est guide conférencière justement pour le couvent des Campes. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Alors, quand on est sur place, quelles sont les parties qui ont été conservées en l'état, ce que nous avons à appeler les vestiges, et quelles sont celles qui ont été réhabilitées ?
Effectivement, vous l'avez dit, il reste sur le site de Beauvoir-en-Royan les vestiges de l'ancien palais d'Humbert II, des vestiges qui sont essentiellement trois immenses ruines, même si vous avez dit que le terme était moins utilisé que celui de vestiges, mais on y trouve effectivement un morceau de l'enceinte qui protégeait le château. Mmh. On y trouve aussi une tour qui était la tour du donjon, et on y trouve encore cette magnifique baie qui est très souvent photographiée, qui faisait partie de l'ancienne grande chapelle qui était également contenue dans le château. Ça, c'est donc pour les vestiges vraiment oui. d'époque médiévale, du XIVe siècle. Mmh. Et puis le couvent des Carmes, qui lui a été fondé à la même époque, 14e siècle, mais qui a été considérablement remanié au fil du temps, et notamment qui a bénéficié d'une campagne de réhabilitation au tout début du 21e siècle.
Non, c'est curieux parce que grâce à cette émission, quand nous partons sur des sites comme celui-là, du patrimoine, très souvent à côté des châteaux, il y a un bâtiment religieux. Mmh. Pas loin, c'est un couvent, c'est un monastère, il y a toujours ça dans le coin. Pourquoi le seigneur des lieux, là, le fameux Humbert, il a souhaité que les fils des rois de France portent le nom de dauphin? Et puis en plus, le, je ne sais pas à qui il parlait, à quel roi, mais ça a été le cas, hein, ça a été fait.
Tout à fait, c'est en fait effectivement ce nom de dauphin, c'était le titre qu'il s'était donné, ces seigneurs du Dauphiné. Et c'est au moment, vous l'avez évoqué, hein, de la cession du Dauphiné au royaume de France, qu'Humbert II a exigé que ce titre soit porté parce que effectivement l'héritier à la couronne de France recevait le Dauphiné avant d'accéder au trône du royaume de France.
Et oui, un peu plus
donc
tard,
il devait porter ce titre de dauphin qui vient effectivement de la région du Dauphiné et qu'on connaît aujourd'hui parfois comme tout simplement l'héritier.
Hein, oui,
c'est
oui,
devenu
oui.
un terme, mais ça vient bien du Dauphiné. Ça vient bien de la région
commun.
Historique du Dauphiné. Oui,
c'est,
tout
ça,
à fait.
C'est l'héritier, c'est sous cette dénomination que ça figure dans le dictionnaire aujourd'hui. Je parlais de la vie des nobles là, qui ont régné sur cette région au Moyen-Âge. On voit ça dans le musée qui est sur place.
Alors on voit effectivement quelques objets qui évoquent des aspects de la vie de ces seigneurs et notamment on a une collection de sceaux qui étaient utilisés donc pour authentifier les documents hein, comme
oui.
signature à l'époque, voilà, et notamment le grand sceau qui était utilisé par Humbert II qui a été le dernier seigneur du Dauphiné.
D'accord. Est-ce qu'on visite le couvent pour voir comment vivaient les moines à cette époque-là?
Oui, on visite l'intégralité de ce bâtiment et il y a effectivement une des salles qui reconstitue ce qu'on appelle la cellule d'un moine carme qui ont été présents sur le site jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution en fait. Donc il y a une des salles qui est une de leurs cellules, c'est un ordre contemplatif, hein, l'ordre des Carmes. Donc c'est une pièce où il y avait un espace pour prier, pour dormir, pour travailler, pour manger. Souvent les gens disent c'est grand pour une cellule, mais c'est vrai qu'ils y passaient la grande partie de leur journée.
Oui, en prière. On dit les moines des moines carmes, c'est comme ça qu'on dit?
Vous avez... Oui, des carmes pour les hommes et plus tard des carmélites pour des femmes.
Ouais. Ah, d'accord. Il y a également, ça c'est étonnant et ça nous a bien plu, des expos contemporaines. Quel est le thème de l'expo du moment là?
Tout à fait. Alors on a des expositions permanente, consacrée à un peintre néerlandais qui a vécu une cinquantaine d'années dans le Royan, notamment à Pont-en-Royan, qui est Bob Tennop. Et on a également un espace d'exposition temporaire. Alors là, jusqu'au mois de mai, on y accueille une exposition qui est aussi consacrée à Bob Tennop pour l'ouverture du site, qui est consacrée à ses nus en fait. Mais c'est un espace qui va accueillir de nouvelles expositions dès le mois de mai prochain.
Mmh. Et le cadre est exceptionnel parce que là, j'ai des photos que l'on m'a transmis. Il y a un jardin, il y a un verger, non?
Tout à fait. Il y a un jardin médiéval,
comme
étaient présents les jardins dans ces communautés religieuses. Un verger conservatoire. Et c'est vrai que la visite de Beauvoir, c'est une promenade dans le temps, mais c'est, vous l'avez évoqué également, une promenade dans un lieu magnifique, dans un cadre magnifique avec
j'ai vu
cet
que
aspect nature.
Ça s'appelait un jardin médiéval capitulaire. Tel que le Charlemagne l'avait souhaité. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin médiéval?
Alors en fait, capitulaire, c'est le nom de, on pourrait comparer ça à un édit, qu'avait promulgué donc Charlemagne, effectivement, il avait donné une liste, il avait diffusé une liste des plantes à cultiver par tous, et y compris dans ces communautés religieuses.
Ah bon,
il y avait des jardins, il y avait à peu près 80 plantes qui figurent sur ce capitulaire de Charlemagne, effectivement, et on s'en est inspiré pour les moines et toutes
c'est
ces communautés religieuses s'en sont inspirées pour... Oui, c'était une liste de plantes à cultiver
dans ces jardins.
Charlemagne
lui-même, il s'occupe de ça. Le mec, il fait des listes. Vous me mettrez des radis, s'il vous plaît, à côté de...
Il y avait des radis parce qu'il y avait des légumes, mais il y avait aussi des fleurs, des plantes pour se soigner aussi, parce que dans jardins médiévaux, il y avait toute une partie du jardin qui servait à se soigner, en fait.
Au fond, là, cet ensemble, pourquoi on en parle avec plaisir aujourd'hui? Parce que c'est une manière de se transporter là-bas, dans la région, bien sûr, mais entre le 10e et le 15e siècle, et c'est pour ça qu'il faut y aller.
Oui, parce qu'on est à la fois dans l'époque médiévale, et puis on le redit, hein, c'est dans un espace naturel qui est magnifique aussi. Mmh. Donc n'hésitez pas, oui.
Merci beaucoup Lydie pour cette courte visite, mais parfaitement intéressante. Je vous souhaite un bon après-midi, à bientôt, au revoir.
À vous aussi, au revoir.
Alors, Gavis, le couvent est accessible? Oui, on visite, on
paye
combien?
Bien sûr, le couvent des Carmes, à Beauvoir-en-Royans, il est accessible du 1er novembre, donc jusqu'au 31 mars, les vendredis et samedis, de 10h à 12h et de 13h à 17h, et le dimanche, c'est de 13h à 17h. Alors, pour les extérieurs, sachez que c'est visible tous les jours, toute l'année. C'est gratuit aussi, hein, l'ensemble est gratuit. Renseignez-vous, il y a plein d'activités aussi, ça va être bientôt les vacances, il y a des activités pour les enfants, il y a de la danse, il y a du cinéma, il y a des spectacles olfactifs, j'aime bien ça. On parle beaucoup des spectacles olfactifs pour les enfants, et là, c'est lié au Moyen-Âge, donc c'est vraiment génial. C'est très riche, c'est un lieu vraiment vivant.
Ce qui m'intéresse, c'est que, est-ce qu'il y avait dans la liste de Carlos Magnus, est-ce qu'il y avait des légumes de l'époque qu'on a peut-être plus aujourd'hui, donc ça c'est intéressant.
On va chercher.
Oui.
On va chercher. Oui.
À part ça, si on reste dans la journée, on peut manger dans le coin ou pas?
Oui, alors je ne sais pas si on va aller manger les légumes qu'avait choisi Carlos Magnus, mais on va pouvoir aller manger dans un très 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 bon restaurant. Ça s'appelle Au Roman du Vercors, c'est juste à côté. Au Roman, comme un roman, comme le livre. C'est à Saint-Roman, avec un S à la fin cette fois, à 5 minutes en voiture du couvent. C'est vraiment une cuisine novatrice, très originale, faite par des passionnés. Alors sur la carte, j'ai pris quand même comme ça au hasard. Attention, écoutez, c'est beau. Des Saint-Jacques aux céréales, cédrat, persil racine et caviar séché.
Bon, c'est ça
le plat.
C'est
un des plats.
Comme
un
ça
des plats.
Sinon, parce que Saint-Jacques, on est en pleine saison, c'est vrai, mais Saint-Jacques aux céréales, c'est plus du cédrat. Un persil racine, caviar séché.
Caviar séché, pas mal. Sinon, il y a un petit foie gras poché au torchon, cacao, anguille fumée, pomme. Ça, c'est le plat. Hein. Ça, c'est le plat. C'est vraiment gastronomique, c'est vraiment bon. C'est une découverte olfactive et une découverte au niveau de tous les sens. Les menus commencent à 37 euros et jusqu'à 84 euros pour le
menu. Il faudrait dire à nos camarades du Michelin d'aller jeter un coup d'œil.
Je crois qu'ils ont déjà été jeter un coup d'œil. Et puis le routard aussi est allé jeter un coup d'œil. On a testé,
Vous distribuez des étoiles?
Pas d'étoiles, non. Pas d'étoiles.
Mais des fourchettes en or?
Non, rien, non plus. Juste notre avis, notre sensation dans le palais.
D'accord. Et ça mérite une étoile, vous pensez ça?
Là, je crois que ça vaut. Largement une étoile.
Parfait.
C'est le roman du Vercors à Saint-Roman.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Chaque semaine dans Samedi en France, nous vous présentons avec Gavin Clément-Hervis du Guide du Routard un site que l'on a appelé site du savoir-faire et qui raconte l'histoire de notre patrimoine culturel ou industriel à travers une pratique ou un art de vivre. Et là, vous allez voir aujourd'hui, si je vous dis ça c'est une image d'Épinal, hein, cette expression que vous comprenez qui est passée dans le langage quotidien, vous comprenez qu'il s'agit d'un cliché parce que au fond, ça ne nous dit pas ce qui se cache derrière une vraie image d'Épinal. Et pour ça, il faut aller à Épinal, voir le musée et surtout la fabrication de ces fameuses images. Ça existe encore aujourd'hui, bien sûr, et ça se visite. D'abord, où sommes-nous, Gavin?
Alors, Épinal, William, c'est la préfecture du département des Vosges, dans la région historique de la Lorraine, comme on disait autrefois, englobée aujourd'hui dans le Grand Est. Alors, Épinal, c'est à une heure de route au sud-est de Nancy, et c'est là que se trouve l'imagerie d'Épinal, la dernière imagerie encore en activité dans le monde, qui a été fondée en 1796.
Ah oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres de ce genre-là.
Non,
c'est ça faut...
encore aujourd'hui en activité. Autrefois, c'était commun, mais c'est vrai que là, une imagerie encore en action, ça n'existe plus, et il faut aller à Épinal pour le voir.
Voilà, et ça veut dire que vous pouvez, comme vous le savez, trouver des images d'Épinal un peu partout si vous le souhaitez. Alors, l'imagerie, c'est donc, comme son nom l'indique, une fabrique à images. C'est donc pas une simple expression.
Alors, non, pas du tout. Ce n'est pas qu'une simple expression, William. C'est une technique qui a été mise en avant par Jean-Charles Pellerin au 19e siècle. Mm-hmm. Alors, ce monsieur, il était cartier.
C'est-à-dire ?
Cartier à l'origine, fabricant de cartes. Tout ouais. simplement. Et il utilisait une technique classique d'impression à base d'un bois qu'il gravait et qu'il coloriait au pochoir.
D'accord. Mais les cartes, les premières cartes, ça représentait quoi ?
À l'origine, les premières cartes, c'était plutôt des images pieuses, des images religieuses. On avait une représentation de Marie, une représentation de Jésus ou des saints, etc., que l'on gardait chez soi. C'était quelque chose qu'on mettait, vous savez, sur le petit meuble dans le salon, sur le bahut, dans la cuisine, etc., ou qu'on gardait sur soi. Et puis, petit à petit, la production des images d'Épinal est devenue de plus en plus profane, j'ai envie de dire, avec des images tirées.
C'est devenu un peu plus laïque.
Un peu plus laïque, avec des images qui venaient des contes, des légendes, ou alors des événements de l'époque. C'est l'ancêtre du journal aussi. C'était là où on mettait, par exemple, il y a eu un très très gros succès de l'imagerie d'Épinal avec Napoléon.
Ça parlait de l'actualité de l'époque.
Exactement.
Donc c'était une manière de raconter presque
de mettre les héros en valeur aussi. Actions.
Et donc les aventures de Napoléon.
Exactement.
Parce qu'on ne savait pas quand ça se passait sur des champs de bataille éloignés, tandis qu'eux le savaient et mettaient ça sur des...
Et ça s'achetait avec les colporteurs,
colporteurs
qui venaient... On appelait ça dans l'Est les chamagnons, très précisément.
Ah bon.
C'était le terme qui était utilisé. Et alors, ils passent de village en village et ils vont vendre. Et ils toquent à la porte, un peu le facteur qui vient nous voir pour vendre son calendrier, ou alors les pompiers. C'est un peu pareil. Là, c'était les chamagnons qui venaient nous vendre des images fabriquées à Épinal pour nous vendre l'image locale ou du moment de l'action qui marchait.
Au début, c'était un peu artisanal quand même.
Exactement.
Hein. Bon.
Et en fait, progressivement, on a vu qu'il y a eu plusieurs machines qui ont été créées, notamment pour que ça aille un peu plus vite, hein, pour qu'on fabrique un peu plus d'images. Et c'est là, aujourd'hui, à l'imagerie d'Épinal, qu'on va pouvoir aller voir dans cette entreprise qui a obtenu le label du patrimoine vivant.
C'est chic, ça, non ?
C'est chic, mais c'est surtout très utile, je trouve, parce que ça permet de mettre en avant le savoir-faire français.
C'est
donné par le ministère des Finances et de l'Économie, et ça permet de retrouver comme ça les traces de notre patrimoine industriel. Le tourisme industriel a le vent en poupe, hein, William. C'est quelque chose qui marche très très bien. Et comme ça, on peut aller voir les anciennes usines qui sont exposées à l'imagerie d'Épinal.
On pouvait imprimer combien d'images ? On a les chiffres de ça, non ?
Eh bien oui, il y a eu la lithographie qui a permis de répandre la diffusion de ces images. Alors, il paraît qu'on pouvait imprimer jusqu'à 500 images par heure. Ça, c'était à la fin du 19e au début du 20e siècle.
D'accord, et ça s'exporte à l'étranger. Image d'Épinal, donc French image, very good, très joli modèle,
etc. Très bel accent, mon cher William. En effet, ça se développe beaucoup à l'étranger. Ça devient comme un savoir-faire français, encore une fois. C'est un fleuron de l'industrie de l'époque, locale, et qui va se répandre tout autour. Et puis, on va développer de plus en plus. Alors, il n'y aura plus seulement les contes, les légendes, mais il y aura des petites choses pour les enfants, des pantins qu'on va pouvoir... qu'on va découper. Et tout ça, on le retrouve sur place.
Alors, il faut expliquer quand même qu'après la Seconde Guerre mondiale, tout ça, ça ne s'écroule pas, mais ça se délite lentement. Pourquoi ? Y a de bonnes raisons.
Qu'est-ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale ? On va voir la télé arriver dans plusieurs foyers, dans de nombreux foyers, dans de plus en plus de foyers. Et donc, cette image, cette petite image en papier, va perdre un peu de sa splendeur. Et puis, la télé... Le cinéma, la radio va faire une concurrence, va avoir une concurrence énorme avec l'imagerie d'Épinal. Donc c'est là que ça va un peu diminuer fortement même.
Puis alors ça redémarre après, dans les années 60, quelque chose comme ça.
Oui, en fait, j'ai envie de dire que c'est le revival, pour utiliser un mot bien français. On a retravaillé l'imagerie ancienne, on a réimprimé certaines images
Populaires. Et créé de nouvelles images.
Et on a surtout créé de nouvelles images avec, on a pris des dessinateurs de BD, on a pris des graffeurs aussi.
Et vous verrez, quand vous allez visiter, vous verrez ça. À la fin de la visite, on signale que vous voyez les ouvriers qui travaillent sur les machines de l'époque, quoi, les vieilles machines.
Ouais.
Ça, c'est assez rigolo.
Une mise en application de ce qu'on peut voir sur les murs et comment ça marche, comment c'était fabriqué exactement.
D'accord. Pour visiter, il faut s'adresser à qui ?
Eh bien, on va aller à l'Imagerie d'Épinal et ça va coûter 11 euros pour un adulte. C'est ouvert du mardi au samedi. Entre 10h et 12h et de 14h à 18h, et parfois certains dimanches et jours fériés, je mets toutes les infos sur Europe1.fr, bien entendu.
Alors, comme d'habitude, on vous indique un site original à visiter, mais si vous restez la journée, déjeuner par exemple, on peut aller manger où ?
Ah, il y a le bistrot gourmand, c'est le bistrot d'un chef franco-britannique. Il fait, attention, une terrine de poulet jaune confit. Et foie gras aux lentilles vertes de Harol. Harol, c'est une spécialité locale de lentilles typique. Et avec une petite confiture d'oignon rouge, tout ça pour 13 euros. C'est pas mal. Il y a le choucroute de la mer aussi, j'ai pris ça pour vous.
Ah bon ?
Je suis sûr que ça va
plaire. À Épinal ?
Oui, avec du cendre, de la Saint-Jacques, des gambas, du saumon fumé, voilà, fait par le chef lui-même. Là, c'est 25 euros, là, la choucroute de la mer. C'est vraiment très contemporain. C'est l'épouse du chef qui vient vous saluer, ouais. Vous ouvrir et vous installer et s'occuper de vous. Ça s'appelle le Bistrot Gourmand et c'est à Épinal. Je mets toutes les infos sur Europe1.fr.
Merci, Gabi. Alors, tout de suite. Comme nous le faisons chaque samedi, une personnalité que vous connaissez vous parle de son enfance en France. Alors voici la navigatrice Maud Fontenoy qui va vous raconter où justement elle a passé son enfance. Oui, c'est en France, mais ce n'est pas une France accessible à tous. Et pourquoi pas, c'est bien de voyager. Alors il s'agit de la Polynésie française. Elle était là-bas avec son frère sur le bateau familial. Et elle se déplaçait d'île en île. Elle se raconte au micro de Daniel Moreau.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Maud Fontenoy.
Bonjour.
Alors, vous avez eu une enfance très très particulière. J'ai envie que vous me racontiez les paysages que vous avez vus dès votre toute petite enfance, vos premiers mois même.
J'ai eu la chance de partir en mer quand j'avais à peine 7 jours. Donc à peine une semaine, j'ai commencé à traverser l'Atlantique et s'en sont suivies 15 années de vie sur la goélette familiale, c'est-à-dire le bateau à deux mâts que mon père avait construit et sur lequel je vivais avec mes frères. Et ça a été une vie de découverte, bien sûr, mais aussi une vie au plus proche des éléments, avec mon père qui faisait la pêche sous-marine, nous qui faisions l'école par correspondance, qui mangeions les fruits et qu'on allait cueillir. Je me souviens de la douceur et de la sucrosité des mangues, et puis de savoir nager en eau libre dès 3 ans autour du bateau, de cette eau chaude, des parfums, des fleurs. Des pêcheurs qui démêlaient leurs filets. Enfin voilà, c'est plein d'images à la fois douces et un grand sentiment de liberté. Et je pense que c'est ce qui m'a donné naturellement la passion de la mer, mais peut-être aussi cette envie de réaliser mes rêves. Et c'est pour ça que je suis partie ensuite traverser ces océans à la rame ou à la voile, parce que voilà, j'avais en tête que tout était possible.
Alors, quand vous posiez quand même le pied sur la terre ferme, c'était dans des îles paradisiaques, évidemment. J'ai envie que vous me disiez un petit peu, si on a la chance d'aller en Polynésie française, ce qu'il faut ne pas rater.
Alors, c'est certain que je suis allée dans beaucoup d'îles, à chaque fois des îles qui sont chaudes, qui sont des îles françaises, parfois loin, des fois moins. En l'occurrence, c'est vrai que moi, j'ai un amour particulier pour la Polynésie parce qu'elle est, je trouve, le dernier paradis qui existe. Et j'ai eu l'occasion d'arriver à la rame sur l'île de Iwaoa, aux Marquises, l'île de Brel et de Gauguin, où j'ai une stèle à mon nom sur la plage. Ils ont gravé une grande pierre avec mon nom dessus. Et je suis allée me recueillir sur la tombe de Brel et c'était un moment très émouvant. Il y a une force tellurique impressionnante sur ces îles, de ces falaises qui tombent comme ça abruptes dans l'océan, avec des couleurs très densifiées, d'une mer très bleue. Il y a une grande, grande force et je me souviens surtout de l'odeur des tiarés. Et puis ensuite, après, à Papeete, j'ai eu l'occasion de partir pour accoucher de mes enfants, pour leur offrir le plus beau coin pour voir... Voilà, la vie pour la première fois, respirer l'air polynésien, il n'y a rien de mieux. Et donc là, je vous inviterai à aller plonger, comme j'ai eu la chance de le faire avec les baleines, avec leurs baleineaux, avec les raies-mantas, d'aller peut-être sur la petite île de Taha, où est-ce qu'on va visiter les cultures de vanille, qu'on va ensuite, nous, consommer dans nos gâteaux. Peut-être aussi les zones de culture des perlières, les huîtres perlières. Les femmes, là-bas, sont couvertes de bijoux de perles, et ça fait partie de cette tradition polynésienne.
On comprend mieux pourquoi vous avez envie de protéger ces océans qui vous ont tant apporté. Et donc, on peut retrouver une BD qui est très, très bien faite et qui va sensibiliser dès le plus jeune âge. Ça s'appelle Maud et les aventuriers de l'océan. Ça sort ces jeunes gueules. Vous pouvez nous en dire un mot ?
La mer, on a besoin vraiment d'elle. Donc, que ça soit à travers les photos, les bandes dessinées, les récits, c'est une façon de faire passer mon amour pour le grand bleu et de faire comprendre qu'aujourd'hui, sauver les océans, c'est sauver l'homme.
Merci Maud pour ce beau message et pour ces beaux voyages. J'ai plein d'images dans la tête grâce à vous. Merci beaucoup Maud Fontenoy.
Merci Maud, merci Daniel. Voilà, c'était une enfance assez originale. Elle, avec 7 jours, elle fait sa première traversée. elle en a fait d'autres. Et ses enfants, alors t'es né où toi ? Moi je suis né à Papété. Ah oui, moi je suis né dans le 15e. c'est à moi de charme, évidemment. Alors je vous rappelle un autre bouquin qu'elle a publié. C'est un livre illustré de photos de Yann Arthus Bertrand. Ça s'intitule « Bleu, un océan de solutions ». Et ça nous montre les ressources insoupçonnées de la mer. C'est pas mal de rappeler ça. Puis pour les enfants, vous avez vu, Maud et les aventuriers de la mer.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dans cette émission, chaque semaine, on essaie de vous trouver des activités plus ou moins sportives, ou en tout cas des activités de plein air, en France bien sûr, qui permettent de découvrir notre pays de façon différente. Alors aujourd'hui encore avec Gavin Clementé-Ruiz, du guide du Routard, un athlète de haut vol, on a trouvé une sortie. Alors celle-là, elle est originale. Faire du canyoning, sport qui consiste à marcher, nager, escalader en eau vive, où ça ? Et on est équipé comment pour y aller ? Et ça coûte combien ?
Ah, c'est, je suis tiré. William, on va aller en effet dans le Haut-Giffre pour faire tout ça.
C'est où ça, le Haut-Giffre ?
Alors, c'est en Haute-Savoie. C'est dans une basse vallée ample avec des petits villages charmants de cartes postales, comme on dit, et des montagnes tout autour qui n'effraient pas leur majesté. C'est-à-dire qu'elles nous protègent en quelque sorte. On n'est pas loin du Mont Blanc quand même. Hein.
D'accord. Là où ça devient original, c'est que c'est du canyoning, quoi. En plein hiver, en été, on a déjà vu ces images-là, elles sont assez belles et plutôt réconfortantes. Mais en hiver, on n'aurait peut-être pas l'idée de s'y risquer, quoi.
Eh ben, c'est pour ça que c'est original. Et c'est justement pour ça qu'on y va aujourd'hui. On découvre une autre facette en hiver, pour notamment voir ce cadre qui est assez magique, l'environnement, pour prendre conscience un tout petit peu plus encore de cet environnement. C'est ça aussi qui me plaisait beaucoup. Et puis, ça permet de faire du sport d'une autre façon.
Donc il faut être un petit peu...
Un petit peu quand même. Je me suis étiré là, je me sens bien.
On est équipé comment ?
Alors, on met une combinaison de plongée, en néoprène, pour ne pas avoir froid. Hein. On va mettre son baudrier, son casque, bon ça c'est la base. Et puis après, c'est bon pour le grand frisson. Alors bien sûr, je vous rassure, on est accompagné. J'ai trouvé la personne qu'il vous faut, c'est Gilles Leroy, de Latitude Canyon. Alors, il est diplômé d'état de canyonisme, sauveteur aquatique et secouriste en montagne. Bref, vous êtes entre bonnes mains et vous pourrez partir l'esprit serein.
Bon, ça me rassure. Alors justement, on a en ligne Gilles Leroy au téléphone. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, comment est-ce que ça vous est venu l'idée de faire du canyoning en hiver ? Est-ce que vous considérez qu'il y a peut-être plus de sensations ? Parce qu'a priori, moi je dirais que les paysages sont peut-être plus impressionnants, non ?
Alors, les paysages sont complètement différents parce qu'on évolue dans un milieu où on a l'eau sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'eau sous forme solide avec la neige, l'eau sous forme glace avec des magnifiques stalactites, et puis l'eau liquide, bien évidemment, tout ça dans un cadre où le calcaire est vraiment noirâtre avec des veines de quartz, donc c'est absolument magnifique. Ça, c'est le premier point. Mais après, le deuxième point, c'est surtout que je suis venu à cette activité au gré de tous les secours que j'ai pu faire. Et je me suis aperçu qu'en fait, on allait chercher des gens de nuit, on allait chercher des gens, des skieurs hors piste qui étaient tombés dans les ruisseaux. Et j'ai vraiment envie de sensibiliser les gens aux dangers que représente la montagne. Et du coup, de leur apprendre et de leur enseigner les techniques, tout simplement, pour s'en sortir. Ça, c'est le premier objectif. Et ensuite, par contre, il y a un objectif aussi qui me tient à cœur. c'est la préservation de l'environnement et les enjeux environnementaux qu'on peut avoir actuellement avec les changements climatiques.
Oui, c'est ça. Mais, et ça devient du tourisme grâce à votre expérience. Quoi. Nous, on va là-bas, non pas pour tomber dans les failles, mais pour se promener et découvrir ça. D'accord. Mais je suppose que les sensations sont différentes en hiver. J'ai l'impression, mais je ne l'ai pas fait, que ça paraît plus grandiose, non ?
Effectivement, les sensations sont complètement différentes parce que vous êtes dans des paysages magnifiques que vous ne pouvez pas accéder même en faisant de la randonnée. Donc, c'est des endroits que vous ne voyez pas. C'est un milieu spécifique et isolé. Et on recherche tout simplement une balade. Donc, il y a des parcours des capes couvertes, il y a des parcours un peu plus sportifs. Mais c'est vraiment une balade au cœur des glaciers en partant de la source du glacier pour aller jusqu'au cœur de la rivière en passant par là où passe l'eau, tout simplement.
Et alors, le parcours, en quoi ça consiste exactement ?
Donc, le parcours consiste à marcher, à désescalader dans la rivière. Donc, il y a des rappels, il y a des tyroliennes.
Désescalader, ça veut dire on descend avec un filin dans la rivière, c'est ça ?
Voilà, on descend et on s'aide à l'aide de techniques de cordes. Donc, on a des cordes, on a des baudriers et un casque. Et on s'aide de la corde pour pouvoir passer les passages qui sont les plus raides.
Et oui, parce que quand on se promène en randonnée l'été, on ne s'imagine pas que l'hiver, c'est une autre paire de manches et qu'on ne voit pas forcément le milieu dans lequel on va aller, quoi.
Exactement, parce que tout simplement, le milieu, il est étroit. Et puis, on ne le voit pas depuis le sentier, parce que de chaque côté, il y a des falaises. Et une fois que vous êtes engagé, ben, vous n'avez qu'une issue, c'est la sortie qui est en bas.
Mais la combinaison, c'est à peu près la même qu'on a l'été. Là, c'est une autre, un peu plus épaisse, c'est du néoprène, je suppose.
C'est complètement différent le matériel par rapport à l'été. C'est-à-dire que là, vous avez des combinaisons qui sont totalement étanches. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui rentre. Donc, les gens viennent comme s'ils allaient au ski, en tenue de ski, en affaires chaudes. Et on les habille intégralement de combinaisons étanches qui ont des manchons au niveau des pieds, des poignets et du cou. Et l'eau ne rentre pas.
Bon, d'accord. Il faut compter combien de temps pour faire un parcours ?
Alors, sur le parcours découverte, on est à 1h30 de descente, avec entre 20 minutes et 45 minutes de marche d'approche et de retour. Et après, on propose des parcours sportifs qui vont de 4h à 5h de descente dans le canyon, avec 1h de marche d'approche et de retour.
Ah, c'est pour vous, William.
D'accord, c'est un parcours un peu pédagogique, finalement, là.
Donc après, il y a le deuxième objectif, où effectivement, il y a un parcours pédagogique où on éveille les gens à la responsabilité du milieu, c'est-à-dire on parle du cycle de l'eau, parce que l'eau sur la planète, c'est la vie, s'il n'y avait pas d'eau, il n'y a pas de vie sur Terre. Et puis on éveille les gens aux enjeux environnementaux, notamment au changement climatique, au fait que l'eau, elle est de façon disparate partout en France et dans le monde, et qu'il faut se poser la question de savoir comment on la stocke, comment on la gère, et comment on l'achemine tout simplement jusqu'à chez vous au robinet.
Et oui, parce que les glaciers ne ressemblent pas à ce qu'ils étaient il y a 50 ans. Hein.
Exactement, donc là on a effectivement, il faut le prendre aussi au niveau des temps géologiques, c'est-à-dire que les évolutions que l'on voit là sont vues que d'une dizaine d'années. Mais effectivement, les glaciers, ils fondent. Ils fondent à une très très grande vitesse en ce moment.
Bon. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces informations. Bon après-midi, à bientôt.
Merci à vous, bon après-midi, au revoir.
Au revoir. Alors, pour faire tout ça, c'était cette activité assez originale, un peu sportive pour une fois, c'est vrai, il faut le dire.
Un peu sportif, ouais. 50€ par personne pour le parcours découverte.
C'est pas terrible, ça, c'est bien.
C'est correct. Et puis, le parcours le plus complet, le plus long, jusqu'à 5h, là, c'est 75€, le parcours sportif par personne, encore une fois.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez amateur de fromage et de Saint-Marcellin en particulier. Il y a du fromage dans cette vallée du Gifle, il me semble,
non ? Bien sûr, on va aller chez Croc-Alpes. Ça s'appelle Le Secret des Fromages. C'est un marchand de fromage. Tout simplement. Ah bon ? C'est la maison du goût, c'est à Mieuxcy et c'est l'endroit idéal pour faire le plein de tomes et de reblochons. Et puis vous pourrez aussi sur place vous informer sur les fromages locaux.
Ah bon ?
Et vous pourrez sur les petits écrans, des écrans tactiles, apprendre plein de choses sur la fabrication. Pour les enfants, c'est intéressant. C'est vraiment pédagogique.
À l'époque, on allait dans une fromagerie, on prenait, on respirait.
Maintenant, on appuie sur un écran.
Ah oui, d'accord. Pour terminer, Gavis, un petit récapitulatif de ce que nous avons proposé à la visite aujourd'hui. Alors,
nous avons presque nagé sous la banquise. C'était à Saint-Nazaire, à bord du sous-marin L'Espadon. On est ensuite allé en Isère, là, dans un château. C'est là que résidaient les seigneurs du Dauphiné au Moyen-Âge.
Et c'est eux qui ont inspiré le nom de dauphin pour les aînés du roi de France. Oui.
Exactement. Ensuite, on a fait un petit tour dans les Vosges pour redécouvrir ou découvrir l'imagerie d'Épinal.
Et voir comment ça se passe sur place, comment on les fabrique avec
Exactement.
Les machines d'autrefois.
Et le renouveau de l'imagerie d'Épinal. Ouais. Et on vient de terminer par la Haute-Savoie et on a fait du canyoning en hiver dans des conditions sécurisées.
Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Pour terminer, une suggestion, toujours dans le même objectif, c'est mieux connaître la France. Alors, ça se passe où, ça ?
Alors, comme c'est bientôt les vacances, et si vous passez dans la région de Bordeaux, je vous ai trouvé une exposition qui me semble vraiment très intéressante. Ça dure jusqu'au 4 novembre 2022, donc vous avez le temps. Ouais. Et vous allez aller au Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux. C'est un des plus beaux de France. Il date de 1791.
Oula.
Et là, il y a l'exposition qui s'appelle « Collectionner la nature ». Point d'interrogation. C'est le point d'interrogation qui m'a intrigué. Ben oui, à quoi ça sert de collectionner la nature, William ? On réfléchit à notre environnement, on s'interroge sur ce qu'il faut collectionner, on s'interroge aussi sur le travail des naturalistes. Alors c'est passionnant, c'est vraiment ludique pour les enfants. C'est parfait pour les grands aussi. On remplit d'ailleurs une vitrine semaine après semaine pour imaginer une collection idéale. Vous verrez sur place. Bref, sortez les herbiers de votre enfance, refaites-les avec les enfants, c'est parfait. Et foncez voir l'exposition « Collectionner la nature ?» point d'interrogation au Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux.
L'émission est à présent terminée. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Gavins, donc Clément Thérèse et Morgane Bikilé. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites, toujours en France, dans 4 régions différentes. Bon après-midi sur Europe 1.